J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir, il est 19h, passé de
3 minutes,
et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, de quoi on va parler?
Je sais pas.
Ah bah si, toi t'as pas eu là.
Si,
tiens,
si, si. Hop. Ce soir, après une paire de brèves, on parlera de la suppression de l'AME.
Ensuite, on aura des nouvelles du Moyen-Orient.
Ah ouais, grave. Une opposition qui peut surprendre de notre côté de la Manche.
Ensuite, on ira faire un tour du côté du Burkina avec les opposants qui sont envoyés au front.
Et puis, bien sûr, on terminera, enfin, bien sûr, ou en tout cas, comme souvent, avec des nouvelles du Kurdistan.
Et on va commencer par une toute petite brève très lyonnaise. Il semblerait qu'au moins la totalité, ou en tout cas au moins une bonne partie des occupants et occupantes de l'ancien squat de la pyramide aient trouvé refuge dans un ancien bâtiment appartenant à la ville de Lyon, située à Caluire. La ville de Lyon qui, pour le coup, sur l'expulsion de la pyramide, n'avait pas été... En tout cas, avait exprimé son désaccord. Alors, on ne sait pas si c'était genre un jeu d'opposition avec la préfecture ou si elle était réellement pas d'accord. Mais en tout cas, il semblerait qu'elle ait porté plainte pour effraction, mais qu'elle ne demandera pas pour l'instant l'expulsion. Donc, en tout cas, affaire à suivre. On espère que ça durera pour elle et eux.
Et une encore plus petite brève nationale, celle-là. Budget 2024, Elisabeth Borne dégaine le 49.3 sur le volet dépenses. La France insoumise dépose une motion de censure. Ouais, c'est bien, ça sert à quelque chose d'avoir des députés, ça sert à quelque chose d'avoir une première ministre. Dans ce monde tellement inquiétant, tellement instable, ça fait au moins un point de repère.
Ça, c'était des vrais brefs, quoi. Alors, 49.3, peut-être que ça me permet de faire une petite transition, mais alors peut-être que sur le projet de loi immigration, le gouvernement...
Vous savez combien on les paye, ces gens-là, pour déposer des 49.3 et des motions de censure?
Bah, cher, mais bon.
Je pense que c'est les gens au RSA qui sont accusés d'être payés à rien foutre.
Tout à fait. Et il y a l'AME. Voilà. Comme ça, hop, voilà. Tu vois, hop, voilà. Et comme ça, on court.
À propos de parasites sociaux.
Le Sénat a voté dans la plus grande des décontractions la suppression de l'AME dans le cadre du projet de loi immigration. L'AME, c'est l'aide médicale d'État qui permet aux plus précaires du pays, les personnes sans papier, qui n'ont donc pas de droit ouvert à la sécurité sociale du fait qu'ils et elles n'ont pas le droit de travailler, de pouvoir se faire soigner sans avance de frais. Une première réforme de l'AME avait conduit à ce qu'un bouquet de soins ne soit accessible aux bénéficiaires qu'à partir de 9 mois d'AME. Hein, c'est comme ça. Mais ça n'a pas suffi à calmer la fable selon laquelle les personnes traversent l'enfer libyen pour se faire poser gratos une paire de hanches. Le Sénat a donc décidé de voter à 191 voix contre 191 voix pour la suppression et 140 contre la suppression de l'AME. Bon, il y a de fortes chances à parier que lors du prochain passage du texte à l'Assemblée nationale, l'AME soit de retour. Une partie des macronistes ne souhaite pas sa suppression. Il s'agit donc pour la droite sénatoriale de faire pression sur le gouvernement pour le projet de loi immigration et de les faire plier sur d'autres volets, on imagine, hein, comme peut-être les régularisations ou encore l'instauration de quotas. Mais en tout cas, même si l'AME est finalement réhabilitée, car même Elisabeth Borne s'y oppose à cette interdiction, même le ministre de la Santé s'y oppose, bref, pas mal de macronistes s'y opposent au final, le mal est fait. D'abord parce que jusqu'à maintenant, seule Marine Le Pen réclamait sa suppression. Même à l'époque de Sarkozy, l'AME n'avait pas été remis en question, pas sérieusement. Là-dessus, Darmanin qui... contrairement à d'autres membres de la majorité, ce que je disais, lui ne s'est pas du tout opposé à cette suppression. Il a franchi encore un pas de plus vers le RN, c'est-à-dire que là maintenant, on sait qu'ils sont côte à côte, quoi. Parmi les arguments, le coût de l'AME, un peu plus d'un milliard par an. Alors c'est comme ça. Pour vous qui êtes au RSA ou au SMIC, ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est quand même pas grand-chose. Ça représente moins de 0,5% du budget de la sécurité sociale. Et là encore, même quand on prend ce fameux 1,2 milliard d'euros, ce qui était le chiffre un peu avancé sur les plateaux télé, dans les débats, le Sénat a quand même un peu tordu le cou à la réalité, puisque par exemple en 2022, ces fameux 1,2 milliard d'euros, il s'agissait seulement des dotations du budget voté pour l'année 2022. Or, durant cette année 2022, par exemple, sur ces 1,2 milliard de dotations, seuls 944 millions ont été utilisés. Donc c'est-à-dire que dans les arguments, il y a le coût, le fait que ça augmente, mais il y a aussi en fait le fait que les dotations augmentent, mais au final, on n'utilise pas la totalité de la dotation du fonds de l'AME dans le budget de la sécurité sociale. Et en plus, c'est aussi à mettre en comparaison, il y a eu un article dans je sais plus quel journal qui montrait qu'en fait les dépenses globales de la sécurité sociale augmentent, et si on les met en rapport avec l'augmentation de l'AME, l'AME augmente moins que les augmentations de la sécurité sociale. En ce qui concerne le fameux appel d'air que générerait l'AME, source de beaucoup beaucoup de fantasmes, hein, parce que comme je le rappelle, on imagine quand même mal des gens aller se faire maltraiter en Libye pour se faire poser une prothèse de genou. De nombreuses études et même les dernières conclusions du rapport Evin-Stefanini, qui sera présenté jeudi au cabinet d'Elisabeth Borne, conclut que l'AME n'est ni trop chère, ni trop incitative et n'amène à aucun abus. Au moins là c'est clair, et c'est pas non plus deux gros gauchistes qui le disent. Peut-être que ce chiffre rouge permettra à Darmanin d'instaurer des quotas, de durcir un peu plus le regroupement familial pour faire voter à la droite son projet de loi sur l'immigration.
Canu Info. Du mercredi.
Et on part au Moyen-Orient.
Je vais essayer de faire un peu les nouvelles du jour, même si les nouvelles du jour sont un peu dans la continuité de celles des jours précédents. Mais je sais bien que des fois on est capable, nous au Canu Info, de ne pas parler des choses les plus importantes parce qu'on trouve qu'on arrive bien plus malin que les autres à en dire. Là, je me suis dit que j'allais faire l'effort de prendre les nouvelles du jour et de faire quelque chose avec. Alors aujourd'hui, Israël annonce que ses troupes se trouvent désormais au cœur de la ville de Gaza, où les combats se sont intensifiés ces derniers jours, comme on le sait. Benjamin Netanyahou a pour sa part répété hier qu'il n'y aurait pas de toute façon de cessez-le-feu tant que tous les otages aux mains du Hamas n'ont pas été libérés. Ce qui n'empêche pas qu'il y a une médiation du Qatar pour essayer de négocier un truc qui serait une trêve de 3 jours en échange de la libération de 12 otages, dont 6 Américains. Je pense que l'idée de libérer des Américains, c'est aussi en espérant que les Américains essayent de pousser un peu Israël à accepter cette négociation. Et tout ça en échange donc d'une trêve humanitaire de 3 jours, qui est donc le truc que Netanyahou veut pas, parce que Netanyahou humanitaire il veut pas, et surtout quand ça serait humanitaire pour des Palestiniens, puisque a priori les Palestiniens ne trouvent pas trop qu'il faut être humanitaire avec eux. Donc ces discussions achoppent pour le moment sur la durée de la trêve et sur l'inclusion dans cet accord du nord de la bande de Gaza. C'est-à-dire que Netanyahou voudrait bien, veut bien faire une trêve sur le sud, qui est l'endroit déjà qu'il est censé pas bombarder, puisqu'il a dit aux gens, allez dans le sud, là-bas on vous bombardera pas. Bon, en fait, il les bombarde un peu quand même. Donc il serait peut-être prêt à faire une trêve là-dessus, mais peut-être pas, mais de toute façon pas trois jours. Bon, le Qatar, pour l'instant, attend une réponse des Israéliens. Bon, en vrai, on a vu que Netanyahou, sa réponse, il l'a déjà plus ou moins donnée hier, en gros, en disant qu'il ne voulait pas de cesser le feu, quoi qu'il advienne. Donc, sauf miracle, l'armée israélienne devrait continuer à massacrer sacrément beaucoup de gens avant de s'arrêter ou même de faire une pause. Mais en vrai, surtout, on comprend bien que c'est justement ça le but d'Israël, c'est de tuer plein de civils, c'est de montrer une sorte de brutalité un peu disproportionnée. Et c'est pas moi qui le dis. J'ai trouvé ça dans l'interview d'un universitaire palestino-américain dans Mediapart, mais surtout lui, en fait, il présentait les ministres actuels du gouvernement israélien, c'est-à-dire, et là je parle bien des ministres qui sont censés ne pas être d'extrême droite et qui ont été inclus dans cette espèce de gouvernement de coalition qui a suivi l'attaque du Hamas. Et c'est eux qui ont théorisé ce truc d'une brutalité disproportionnée.
Tu veux dire cette coalition qui intègre des gens affichés d'extrême droite?
Alors non, justement, c'est qu'il y a la coalition entre la droite très dure et l'extrême droite, en gros une espèce de rassemblement, enfin ce qui serait l'équivalent d'un rassemblement entre Éric Ciotti et Éric Zemmour, qui était au gouvernement en Israël depuis les dernières élections. Mais là, depuis le début de l'attaque du Hamas, Netanyahou a formé une nouvelle coalition en intégrant des membres de l'opposition, ceux sur lesquels on avait compté à un moment pour qu'Israël soit moins facho. Mais alors, qui c'est ces membres de l'opposition? Et donc là, je vais vous lire un petit extrait de cet article sur Mediapart. Donc on demande à ce Rachid Khalidi, qui est donc cet universitaire palestino-américain, on lui demande, êtes-vous surpris par l'ampleur de la guerre menée aujourd'hui par Israël à Gaza? Et lui répond, pas du tout, dans la mesure où on connaît le parcours des membres cooptés dans le cabinet de guerre qui a été mis en place après le 7 octobre, soi-disant pour assurer la présence de personnes qui s'y connaissaient en matière militaire et pour réduire l'influence des ministres suprémacistes juifs, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui eux n'ont pas été conviés dans ce cabinet. Donc eux, ils étaient ministres avant le 7 octobre et après ils ont été dégagés pour pouvoir faire rentrer des gens qui étaient censés être un peu plus experts en questions militaires et un peu moins fachos. Et donc c'est qui ces gens? Et ben c'est par exemple Benny Gantz. Donc Rachid Khalidi continue en nous présentant Benny Gantz. Benny Gantz était chef d'état-major lors de la guerre de Gaza en 2014. Et il y en a un autre qui est Gadi Eisenkot. Gadi Eisenkot, lui, était chef des opérations de l'armée israélienne lors de la guerre menée contre le Liban et le Hezbollah en 2006. Il avait affirmé, donc ce Gadi Eisenkot, il avait affirmé à l'époque qu'il avait développé ce qu'il nommait la doctrine d'Ahiya. L'armée de l'air israélienne avait rasé tout le quartier de Daïa, un quartier chiite à Beyrouth. Rasé tout le quartier. Et Eisenkot avait alors assumé, appliqué une force disproportionnée et causé de nombreux dégâts humains et destructions, car de son point de vue, ce ne sont pas des villages civils, ce sont des bases militaires. Des bases militaires remplies d'enfants, de... Il avait également promis que ce qui s'est passé dans le quartier de Daïa de Beyrouth en 2006 se reproduira dans chaque lieu depuis lequel Israël sera visé. Au moins, c'est clair et net. Et ça, c'est des déclarations qui dataient d'avant le 7 octobre. Les trois généraux qui mènent aujourd'hui la guerre à Gaza, Yoav Gallant, Benny Gantz, donc cette espèce qu'on nous présentait comme le grand démocrate qui était face à Netanyahou et qui lui pouvait ramener un truc bien plus raisonnable, et Gadi Eisenkot, sont les principaux artisans avec Ariel Sharon de la doctrine militaire qui prétend assurer la sécurité d'Israël depuis 20 ans en ne faisant aucun cas des vies palestiniennes, civiles et enfants inclus. Il n'y a donc rien de surprenant, nous dit toujours, qu'il s'appelait Rachid Khalidi, il n'y a donc rien de surprenant à ce qu'il mène une guerre aussi sanglante. Voilà, autre nouvelle, Macron a encore dit un truc, alors les juifs je sais pas quoi, les musulmans je sais pas quoi, bon en réalité pas la peine de détailler, de toute façon depuis le début de cette histoire, et comme souvent d'ailleurs, Macron dit n'importe quoi qui lui passe par la tête sans prendre une minute pour réfléchir à si ça va être malin ou pas. Alors un jour il soutient Israël inconditionnellement, le lendemain il demande le cessez-le-feu, un jour il envoie un bateau à l'hôpital du côté de Gaza, mais comme de toute façon il sait que les blessés pourront jamais arriver sur le bateau, il n'y a pas vraiment de médecin à bord, ni de matériel médical, le bateau est à peu près vide. Un jour, il a l'idée de faire servir la coalition internationale anti-Daesh à aller buter le Hamas. Un jour, bon, voilà, il dit tout ce qui lui passe par la tête. Le monde entier a arrêté de le prendre au sérieux. Et figurez-vous que les diplomates français s'arrachent carrément les cheveux à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Il y a un article dans Le Monde d'aujourd'hui, si vous voulez aller voir ça, qui est quand même un petit peu rigolo sur le côté. Mais vraiment, à chaque fois qu'il s'approche d'un micro, tout le Quai d'Orsay et ses différents représentants dans le monde entier font « Ah non, 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 pas ça, pas ça. On va être obligé d'assumer derrière, merde. » Quoi d'autre ? Un expert indépendant de l'ONU dénonce des crimes de guerre à Gaza. Après avoir, bien sûr, c'est réglementaire un peu, dénoncé les crimes de guerre du Hamas le 7 octobre, paraît que c'est pas très conforme à la légalité internationale de bombarder des habitations de civils. Bon, là où on en est, c'est vrai que si jamais il reste des gens à Gaza à la fin de l'opération, on voit pas bien dans quoi ils pourraient habiter, parce que par contre, il reste pas beaucoup de murs qui se tiennent un peu ensemble les uns les autres. Quoi d'autre ? Anthony Blinken, c'est-à-dire le secrétaire d'État américain, a déclaré aujourd'hui qu'Israël ne devrait pas réoccuper la bande de Gaza à la fin du conflit en cours avec le Hamas, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Les États-Unis avaient déjà dit mardi qu'ils étaient opposés à une éventuelle réoccupation du territoire palestinien après, et ils avaient dit ça après que Netanyahou avait déclaré la veille que son pays prendrait la responsabilité générale de la sécurité à Gaza pour une durée indéterminée, ce qui ressemble bien donc à une réoccupation. Bon, ce qu'il y a à retenir, c'est pas tant réoccupation ou pas réoccupation, enfin même si ce qu'il y a, une partie de ce qu'il y a à retenir, c'est effectivement que en réalité c'est un truc qui est tout à fait envisagé. Mais quand même, ce qui se confirme par ailleurs petit à petit, c'est que le gouvernement israélien est tellement taré que même les Américains ont de plus en plus de mal à le suivre. Alors attention, ça ne veut pas du tout dire qu'un lâchage en règle est envisageable, ça veut juste dire qu'ils ont de plus en plus de mal à assumer de les suivre, mais en réalité ils vont les suivre. Et puis la grande annonce aujourd'hui, alors là on revient en France, d'une marche contre l'antisémitisme à Paris ce dimanche. Alors face à la recrudescence des actes hostiles aux juifs en France, le président du Sénat Gérard Larcher, donc de droite, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, donc de droite macroniste, ont appelé tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République à y participer. Alors, bien sûr, c'est là où, contrairement à ce que je fais d'habitude, on est obligé d'essayer de parler en disant un truc et en pensant et son contraire, parce que tout est un peu compliqué avec cette gestion de l'antisémitisme en France. Donc voilà, cette marche, commençons par ça, toute la droite et l'extrême droite comptent bien s'y précipiter. Les mêmes qui sont issus d'une longue tradition antisémite, les héritiers de Pétain, des anti-Dreyfusards, des collabos, tout ça. Et là, je parle de l'extrême droite, mais je parle aussi en réalité d'une partie de la droite qui, dans toutes ces époques-là, est allée quand même très franchement à fond dans l'antisémitisme pendant, disons en gros, la large première moitié du XXe siècle. Bon, tous ces gens-là, ils vont se précipiter à la marche contre l'antisémitisme. C'est que maintenant, la mode a changé et l'ennemi de l'intérieur, c'est plus le juif, c'est quand même globalement plutôt le musulman. Le mécanisme est grosso modo le même, hein. Mais on a juste changé l'identité du bouc émissaire. Et moyennant quoi, tout peut continuer pareil. Et c'est même au nom des juifs que quelques années avant on persécutait, que maintenant on va persécuter les musulmans. Non, je voulais dire un truc, mais je sais plus quoi. Alors, la polémique passionnante autour de cette marche, c'est de savoir si le Rassemblement National, qui compte aussi s'y précipiter en masse, y aura sa place. Bon, aucune polémique, par contre, pour savoir si Darmanin, qui est quand même auteur de quelques pages antisémites, et par ailleurs de propos racistes à tire-larigot, lui, s'il pourra y aller ou non, ça, c'est pas du tout polémique. Mais le Rassemblement National, c'est un peu polémique, d'autant qu'il y a deux ou trois jours, ou hier, ou je sais plus quand, Jordan Bardella nous a fait une petite sortie en expliquant que Le Pen, le père, n'avait jamais été antisémite.
Il a dit « Je ne crois pas que Le Pen ait été antisémite ».
Alors voilà, alors moi, je ne crois pas que le Rhône et la Saône coulent à Lyon, je ne crois pas, enfin bon, l'antisémitisme de Le Pen père est quand même une sorte de données de base de son parti depuis sa création.
C'est en tout cas une donnée juridique, par exemple.
C'est une donnée juridique, il a été condamné pour, c'est pas...
Et une partie importante de son identité...
est basée sur la collaboration, sur l'OAS, qui elle-même, pour le coup, était basée sur le fait d'être anti-arabe, mais en réalité, était kafi d'anciens collabos. Voilà, donc à ce moment-là, c'est le moment où, ma foi, on dit « Ah oui, mais non, mais quand même, des gens qui pensent que Le Pen père n'était pas antisémite, est-ce qu'ils peuvent aller à la marche ?» C'est pas passionnant. Alors, attention, entendons-nous bien. Bon, nous, moi, je vais pas y aller, d'une part, j'habite pas à Paris, mais autrement, je dirais sans doute pas, parce que tout ça paraît un peu glauque et un peu dégueulasse et un peu hypocrite. Mais ça veut pas dire que c'est ça. Visiblement, les actes et les propos antisémites ont réellement explosé depuis le début du mois d'octobre, et c'est réellement sacrément grave et sacrément con. Les antisémites partagent un truc avec les sionistes, alors là le partage en long, en large et en travers, c'est le fait de penser que Israël est l'état de tous les juifs du monde. Quel que soit ce que les juifs à Paris, à Santiago du Chili ou à New York peuvent penser ou ne pas penser de l'état d'Israël. Alors qu'un bon nombre de juifs un peu partout alors d'une part, il y a ceux qui en ont vraiment rien à foutre d'Israël, il y a ceux qui soutiennent la cause palestinienne, et ces juifs-là, ils existent. Mais pour n'importe quel antisémite comme pour n'importe quel sioniste, c'est pas grave. La question n'est pas là. La question, c'est que s'ils sont juifs, ils sont d'une manière ou d'une autre un peu ressortissants de l'État d'Israël. Il y a par ailleurs une longue tradition de la pensée juive, au moins depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire depuis le début de l'idée sioniste et jusqu'à aujourd'hui, qui s'enorgueillit d'être un peuple et d'avoir une identité sans avoir besoin pour ça d'avoir un État. Il y a vraiment des gens qui sont juifs, qui sont très juifs et qui en ont... Enfin, je veux dire très juifs, pas du tout forcément religieux. Alors il y en a par ailleurs qui sont religieux aussi. Mais il y en a plein qui sont athées comme vous et moi, mais par contre qui trouvent important d'avoir cette culture juive, mais qui se sentent absolument rien à voir avec Israël. Ces gens existent. Les antisémites comme les sionistes ne veulent pas considérer qu'ils existent. L'antisémitisme, c'est un racisme qui est exactement ni plus ni moins aussi dégueu que les autres. Même si pour le coup, depuis la Deuxième Guerre mondiale et à la sortie des camps d'Auschwitz, globalement les classes dirigeantes, on pourrait dire des pays du Nord, ont décidé de... Voilà, j'ai écrit des choses à la main, mais c'est terrible.
Tu n'arrives plus à te relire.
Ouais, c'est ça.
On décidait de lutter plus contre l'antisémitisme.
On décidait que l'antisémitisme, ça serait autre chose que les autres formes de racisme, et que ça, ils allaient s'y opposer. En tout cas, dans les propos, parce que après, ça veut pas, je veux dire, dans les propos publics, ça veut rien dire sur ce qu'ils pensent en vrai, ça veut rien dire sur.
Mais en la tout preuve, cas, par exemple, avec Darmanin qui avait écrit dans son dernier livre que les Juifs étaient une communauté pas assimilée, enfin, ou de la même manière qu'il globalisait sur les musulmans, il globalisait de la même manière sur les Juifs, et ça l'empêche pas aujourd'hui de.
Ça l'empêche pas aujourd'hui d'accuser d'antisémitisme tous les gens qui s'opposent à la politique ou au gouvernement fasciste israélien, de les accuser d'antisémitisme. Et du coup, lui-même, il y sera, hein, cette marche, c'est clair et net, hein, parce que l'antisémitisme, c'est mal, surtout... Mais voilà, du coup, c'est une forme de racisme, c'est dégueulasse. Par contre, pourrir Israël en tant qu'État qui repose sur une forme d'apartheid, en tant qu'État dirigé par une coalition d'extrême droite, ça, c'est pas antisémite. Considérer que les Juifs et les Juives... Que ça soit celles et ceux qui vivent en France, ou celles et ceux qui vivent en Israël, mais qui en réalité, ils vivent en Israël parce qu'ils y sont nés, par exemple. Considérer que les Juifs sont responsables des saloperies de cet État, ça, oui, ça c'est antisémite, ça c'est raciste. Et ça, c'est un peu comme si on considérait que toi, t'es responsable de toutes les saloperies de la France-Afrique, par exemple. C'est pas parce que tu vis en France que t'es responsable des saloperies de la France-Afrique. C'est pas parce que quelqu'un vit en Israël qu'il est responsable des bombardements sur Gaza. C'est exactement la même chose. Et voilà, du coup, cette marche dimanche a l'air sacrément piégée. Et quand je dis ça, ça ne veut pas du tout dire que je cautionne l'antisémitisme.
Mais moi, je me pose une question, mais tu n'as peut-être pas la réponse. C'est-à-dire qu'on recense les actes antisémites qui sont en augmentation, mais est-ce qu'on recense les autres actes racistes, notamment les actes islamophobes? Est-ce qu'ils sont recensés, ceux-là?
Alors, je pense qu'ils sont recensés. Je pense par ailleurs que... je pense qu'ils sont recensés. En tout cas, il n'y a rien qui est sorti dans les journaux pour autant jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas dû exploser de la même manière, ça me semblerait assez logique. Et alors, par contre, dans l'explosion des actes antisémites, Je pense qu'ils ont réellement explosé, que de toute façon, c'est pas complètement nouveau en France, qu'il y a une remontée de l'antisémitisme qui, moi, je considère avait quand même plus ou moins disparu dans les années 80-90, mais qui s'est fait un peu lentement, sûrement, avec l'extrême droite, avec petit... Ça, c'est pas du tout depuis toujours, hein, mais depuis peut-être 15 ou 20 ans, il y a effectivement une forme de soutien à la Palestine qui parfois est antisémite.
Comme avec Dieudonné, par exemple. Enfin, je trouve que Dieudonné et Soral ont carrément...
Comme avec Dieudonné et Soral, exactement ça. Mais il y a aussi un antisémitisme d'extrême droite qui, ma foi, s'était un peu planqué après Auschwitz, mais qui a commencé à relever un petit peu la tête. Tout ça, ça existe, effectivement. Mais, j'allais encore dire un autre truc, mais j'ai oublié.
Eh ben, hop, c'est 27, c'est le temps de se faire une petite pause musicale. On va s'écouter La Gale avec Le Passage d'une frontière.
Du phosphore blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes, ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine. Je suis la peur au confinement de leurs nerfs et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent, ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais été inscrits en lettres capitales, sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement c'est tarif par escale entre charter, expulsion, l'univers carcéral. Et à jamais la bête noire de ces chacals est mon ambition première. Je considère que c'est normal, le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Claquer la porte, il y a de ça fort longtemps, ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement et je brûle, me consume en quatre temps, une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens, pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radicale. Si ce sol je foule encore, c'est pour que mes failles restent imprimées après ma mort. Tu es né poussière, tu retourneras poussière, les vautours chaque jour dévoreront tes viscères. Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain, que la résignation pour toi est le plus court des chemins. C'est la brèche insolente et la branche qu'ils ont sciée. Se tient le rêve jamais brisé d'un à un, les voir tomber. Des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sur scène. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des dettes en surenchère. Pour une guerre à ciel ouvert. Nadine, Bassam, Fadi, Sami, Ramtal, Soha, Malika, tous les frères, les sœurs, RGB. DJ Lotto Skills.
Ah, ça faisait longtemps quand même. Tac. Eh bien, on va faire un tour du côté de l'Angleterre et c'est le Premier ministre Rishi Sunak qui défie la Metropolitan Police de Londres et notamment son chef Mark Rowley pour qu'il interdise une manifestation pro-palestinienne prévue samedi, jour de la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, ce qui constitue, je cite, une provocation et un manque de respect pour le Premier ministre. Alors le chef de la police, lui, refuse de l'interdire et justifie son refus car les renseignements concernant de potentielles troubles n'ont pas atteint le seuil requis pour demander une interdiction, tout en affirmant bien sûr que la sécurité des lieux et des personnes serait assurée. Alors c'est quand même assez, ça détonne un peu par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer chez nous, qu'un chef de la police dise un peu clairement qu'il y a, bah oui, il y a des espèces de seuils un peu de bah en fait il y a des remontées, enfin comme s'il y avait un peu des seuils objectifs de pour interdire ou non une manifestation, ce qui en France est complètement soumis au un peu au diktat
à l'arbitraire
des politiques, ouais. Bien sûr, donc le Premier ministre, tout en assurant qu'il ne veut pas vouloir mettre la pression à la police qui est indépendante. Aussi, grosse différence par rapport à chez nous.
C'est qu'il doit effectivement y avoir une sorte de différence hiérarchique pour que ça puisse se passer comme ça.
Exactement. Le Premier ministre a assuré qu'il tiendrait le chef de la police comme responsable en cas de débordement. Ce qui dénote donc, oui, effectivement, par rapport à chez nous, car l'indépendance qu'a l'air d'avoir la police en Angleterre, ou en tout cas à Londres, je ne sais pas si non plus il y a une spécificité entre Londres et l'Angleterre ou pas, mais une situation pareille serait inimaginable en France, même avec les préfectures qui par exemple, interdiraient ou n'interdirait pas plutôt une manifestation contre l'avis, par exemple, je sais pas, de Borne ou de Darmanin qui souhaiterait absolument faire cette interdiction, et notamment sur ce sujet-là, on le voit très bien, où Darmanin envoie une lettre, alors ça s'appelle pas une lettre, mais bref, aux préfectures pour que ça soit interdit, ce qui est appliqué de fait par toutes les préfectures.
Mais parce qu'en France, c'est ça, c'est que les préfets ont une chaîne hiérarchique directe, qui sont directement dans la hiérarchie. Ils doivent leur boulot, c'est de répondre aux ordres du ministère de l'Intérieur.
Et voilà, donc je trouvais que c'est un peu rigolo, parce qu'effectivement, quand je lisais l'article comme ça, je me disais, c'est marrant, c'est vraiment une situation qu'on ne pourrait pas du tout voir ici.
Du mercredi.
Ah, c'est encore à moi.
Et c'est encore toi.
Oh là, mais attendez. En plus, j'ai mélangé mes feuilles. Pff, quelle merde. Ah non, arrêtez, c'est que j'ai imprimé deux fois.
Ah, mais alors attends.
Ah putain, bon, vas-y. Toi, parle-nous du Kurdistan. Par contre, j'ai imprimé mes machins.
Alors, ça, c'est de l'improvisation. Après, en plus, il aime pas ne pas avoir de générique. Oui. Alors, du coup, après, il va.
C'est pas grave, on peut le faire. Si tu peux me le mettre pendant que j'ai. Une fois que j'ai commencé à parler, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave. Bon, alors, effectivement, je vais parler un petit peu des Kurdes, dont la situation, par bien des aspects, est semblable à celle des Palestiniens. Même si en ce moment, le monde a les yeux tournés vers la Palestine et le massacre en cours des Palestiniens à Gaza, le peuple kurde, lui aussi, continue de subir, notamment au Rojava, les attaques de la Turquie, qui colonise d'ailleurs aussi une partie de ce territoire. Donc jeudi dernier, des tirs d'artillerie de soldats turcs ont visé une zone autonome du nord et de l'est, ont visé une partie de la zone autonome du nord et de l'est de la Syrie. Tirs d'artillerie qui ont d'abord été faits le matin par l'armée turque et qui ont continué ensuite toute la journée, mais cette fois-ci effectués par des milices pro-turques présentes dans la région. On peut noter l'intensification depuis plusieurs mois, l'intensification d'attaques de drones turcs au Rojava, mais aussi au Bachour, Kurdistan d'Irak cette fois, donnant lieu, dans la majorité des cas, à la mort de civils kurdes.
Un jour, vous allez vous lasser de cette chanson.
Jamais. Ensuite, on part au Bakour, du coup, au Kurdistan de Turquie, et on va prendre des nouvelles de Fiden Yüksekdağ. Alors, Fiden Yüksekdağ, qui c'est ? On a beaucoup parlé de Süleyman Demirtaş, le charismatique coprésident du HDP, parti d'extrême gauche de Turquie, interdit maintenant. On a beaucoup parlé de lui et de sa condamnation à 140 ans de prison. Notamment parce que depuis sa prison, il s'était présenté à l'élection présidentielle contre Erdogan, et puis il a écrit beaucoup de bouquins, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de lui. Mais on oublie souvent de parler de la coprésidente de ce même parti, du coup sa collègue, qui elle aussi a été condamnée à... on n'a pas encore le total des années de prison qu'elle va prendre, mais elle y est pour plus de 100 ans officiellement, hein, peut-être pas officieusement, parce qu'elle risque de mourir avant. Et voilà, elle est comme son collègue en prison là, depuis 7 ans, pour le procès dit de Kobané. Donc c'était le procès dit de Kobané. Alors si on peut rappeler un peu l'histoire, c'est que en octobre 2014, au moment où Kobané, donc cette ville kurde de Syrie, était assiégée par Daesh, il faut savoir que cette ville est située à la frontière avec la Turquie, et que la Turquie avait mis un blocus pour que rien ne puisse arriver dans cette ville, c'est-à-dire aucune aide, Par contre, les islamistes de Daesh pouvaient passer, mais les Kurdes qui souhaitaient apporter de la nourriture ou soigner les blessés ne pouvaient pas passer. Et le parti avait à ce moment-là appelé à des manifestations pour briser ce blocus, dont une manifestation avait d'ailleurs réussi à briser la frontière, et des Kurdes étaient passés, soit pour combattre, soit pour apporter de l'aide. Et du coup, la Turquie accuse c'est le HDP et les deux coprésidents et coprésidentes d'avoir appelé à ces manifestations-là, et du coup, ça équivaut à des centaines d'années de prison. Voilà, donc après 7 ans, on a pu voir Figen Yüksekdağ, puisqu'elle a été autorisée à sortir de prison pendant une journée pour enterrer son frère. Voilà, donc je trouvais juste que c'était important de reparler de Figen Yüksekdağ. Toujours au Bakour, du coup la partie kurde de Turquie, Shindar Akıncı, qui est elle la représentante de ce même parti du HDP dans une région, dans la région de Mardin et de Yüksekova, il me semble. Voilà, elle dénonce l'augmentation des violences sexuelles dans la région de Mardin et de Nusaybin de la part des forces de police. De plus en plus d'agressions violentes et sexuelles sont commises contre les femmes dans ces régions, et les corps nus de femmes tombées dans les conflits armés sont exposés publiquement. Donc pour Shindan Akıncı, la coprésidente du HDP local, ces exactions s'inscrivent dans le cadre de ce qu'elle appelle une guerre spéciale. Cette guerre spéciale serait une sorte de guerre quotidienne de basse intensité, exclusivement dirigée contre les femmes kurdes qui sont particulièrement actives dans les mouvements d'émancipation du peuple kurde.
Donc cette fois-ci, on va au Burkina.
Ben ouais, on va essayer, mais que l'imprimante ne marche pas, alors je vais faire ça de mémoire.
Vas-y, on a confiance en toi.
Le Burkina, vous vous rappelez pas, bon, je vais en faire très vite. Le Burkina, un président très autoritaire pendant hyper longtemps, qui a été viré en 2014 par une révolte populaire. À ce moment-là, il y a un président qui a été élu, Roch-Marc Christian Kaboré. Après un premier mandat, il a été réélu, mais c'est aussi le même moment, quand il y a eu ce premier président élu, où une partie du Burkina a commencé à être embêtée par des djihadistes de plus en plus violents, de plus en plus cinglés, qui tuent énormément de populations civiles, qui arrivent dans les villages, qui encerclent les villages à moto et qui tuent parfois tout le monde ou parfois énormément de gens. Le président Kaboré n'est pas tellement arrivé à y faire quelque chose pour que ça aille mieux. Et donc là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu un coup d'état militaire pour le dégager en disant « Nous, par contre, les militaires, quand on va être au pouvoir, on va arriver à faire mieux. » Ça n'a pas marché. Et du coup, il y avait un premier dictateur militaire, en quelque sorte, qui lui-même a été renversé par un deuxième coup d'état militaire, du même mouvement pour de la patrie, machin chouette, et qui lui a dit non, mais, et donc maintenant c'est Ibrahim Traoré qui est donc président de la transition, mais une transition qui est potentiellement partie pour durer longtemps, et qui, c'est ça, qui est président du Burkina, quoi. Alors au moment où il arrivait, c'est vrai que cette guerre contre les djihadistes, c'était un truc important. C'est vrai que les djihadistes, c'est vraiment un fléau, quoi, qu'il y a une grande partie maintenant de la population du nord du Burkina qui est déplacée. Il y a plein de gens qui ont été tués. C'est vrai que d'une manière ou d'une autre, il faudrait quand même arriver à faire quelque chose d'efficace contre ces djihadistes. Mais lui, comme efficacité, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a commencé par dégager l'armée française, ce qui pouvait toujours faire plaisir en passant. Mais après, il n'a pas fait grand-chose. On dirait qu'il est allié à Wagner un petit peu, donc des mercenaires russes. Mais pour autant, en réalité, il n'y a pas d'amélioration sur le front de la lutte contre le terrorisme. Par contre, l'armée burkinabé se lâche contre certaines ethnies qui sont accusées plus que d'autres de soutenir le terrorisme, en particulier les Peuls. Mais se lâcher contre les Peuls, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'en réalité, les Peuls, chez les djihadistes, il y a des Peuls, mais il y a plein de Peuls qui sont pas djihadistes, il y a plein de Peuls qui sont opposés à ça. Sauf que petit à petit, quand ils sont pris entre d'un côté les djihadistes et de l'autre côté l'armée du gouvernement qui vient et qui les ou des milices villageoises qui viennent et qui les butent juste parce qu'ils sont peuls, bah ils se disent que finalement la bonne solution est sans doute plutôt du côté des djihadistes. Donc ce truc, c'est cette espèce de racisme, comme souvent dans ces cas-là, va bien sûr plutôt alimenter le camp des ennemis. Donc tout ça a pas l'air malin. Et ce président Ibrahim Traoré, pour le coup, ce qui se passe par ailleurs, c'est que lui, beaucoup plus vite que le premier militaire qui avait pris le pouvoir, beaucoup plus vite, il est en train de zapper toutes les institutions démocratiques, tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Enfin, il est dans une sorte de guerre. Revenons sur le fait que le Burkina, c'est un pays d'Afrique qui a quand même où les gens ont une sorte de conscience citoyenne, de volonté de participer aux affaires publiques. Les gens, ils s'en foutent pas de la politique. Ils sont militants ou ils sont pas militants, mais en tout cas, ils s'en foutent pas de la politique. Ils ont pas l'habitude de se laisser faire. C'est un pays où tous les dirigeants, les uns après les autres, à part ce premier président élu, Rochemarc Christian Caboret, tous ont essayé d'instaurer le parti unique, par exemple. Et aucun n'y est jamais arrivé, parce que la population, elle veut pas de ça. C'est un pays où il y avait quand même, là ça a l'air d'être un peu plus chaud, mais où il y a quand même eu un journalisme libre qui était un journalisme, enfin qui était un truc vraiment important, quoi. Où y compris ce président dictateur qui est resté 29 ans au pouvoir, Blaise Compaoré, n'a jamais réussi à avoir une presse aux ordres de manière stable et efficace.
Et la presse sortait des dossiers sur le président.
Sur le président, sur le frère du président, sur il y a eu des journalistes qui se sont président. Fait assassiner, mais les autres journalistes ont continué le boulot, quoi. Et là voilà, bah du coup maintenant Ibrahim Traoré, on dirait que c'est plus difficile de trouver des articles de journaux burkinabés qui valent le coup maintenant. Il y en a moins. Et d'autant que, c'est ça que là, il vient d'avoir une idée hyper bien, et en réalité, c'est de ça que je voulais parler, c'est qu'il a pondu, déjà il y a quelques mois, il a pondu un décret. Alors, les forces armées qui luttent contre les djihadistes, il y a d'une part l'armée, et d'autre part des sortes de milices citoyennes, auxquelles l'État donne aussi des armes, de milices villageoises un peu, qui ont pas l'air de faire rigoler, hein, globalement. Mais maintenant, il y a un nouveau truc, c'est la possibilité de réquisitionner n'importe quel citoyen grâce à une nouvelle loi qui est passée il y a quelques mois, dans la mesure où ça serait pour la sauvegarde de la patrie, tout ça, si on a besoin de ce citoyen en particulier, le gouvernement peut prendre un décret avec des noms précis et demander à certains de ces citoyens d'aller rejoindre l'armée pour une durée de 3 mois. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au même moment où l'opposition qui de plus en plus a une opposition un peu unie, disons que ça qu'il y a un front d'opposition qui ressemble de plus en plus au front d'opposition qui avait mené à la chute du président Blaise Compaoré, celui qui est resté au pouvoir 29 ans, avec ce qui avait été à l'époque le balai citoyen, comme dans d'autres pays d'Afrique francophone, avec des organisations de ci, des organisations de ça, des syndicalistes, des partis politiques, tous ces mouvements citoyens, quoi, et qui se disent qu'il faut dégager la personne qui est au pouvoir maintenant. Et ça a l'air petit à petit de se coordonner au Burkina. Au moment où cette opposition voulait organiser, pour le 1er novembre, me semble-t-il, une manifestation de commémoration de la révolution qui avait viré Blaise Compaoré, il y a donc 9 ans. À ce moment-là, bon alors, d'une part, le gouvernement a juste interdit cette manifestation en disant que non, mais ça allait surtout diviser la société. Mais parallèlement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à prendre des décrets pour réquisitionner certaines, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, mais pour, du coup, pour réquisitionner des citoyens pour les envoyer au front avec l'armée. Et en réalité, il y a très peu de citoyens qui ont été réquisitionnés, il y en a peut-être une douzaine. Il se trouve qu'ils sont tous syndicalistes ou journalistes, auteurs d'enquêtes critiques contre le gouvernement ou militants de partis politiques. Et voilà, en fait, c'est juste une idée, il me semble, qui est relativement originale, que les différents. Que Macron n'a jamais eu, mais bon, parce que. Ah non, c'est vrai, on n'a pas de guerre vraiment ouverte en cours, là. D'autant plus que l'armée française s'est en fait virer de tous les pays africains. On ne saurait pas bien où les envoyer. Mais en tout cas, c'est ça. C'est des sortes de réquisitions pour l'armée, de manière extrêmement ciblée, juste sur les gens qui y font chier. Et du coup, ce qui, bien sûr, fait poser une lourde menace sur les autres, en sachant aussi que l'armée burkinabé a une tendance à se faire, à envoyer des bataillons qui se font massacrer par les djihadistes, réellement, parce qu'ils sont mal armés, parce qu'ils sont voire des fois pas nourris, parce qu'ils ont, ils ont des voitures qui tombent en panne et des flingues qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, et que les djihadistes, eux, sont bien plus efficaces.
Canu Info. Du mercredi.
Je vois sur ma droite qu'on a un petit agenda. Alors,
ouais, bah c'est pas sans faire un agenda, c'est juste rappeler que vendredi soir, du coup, il y aura à 18h, il y a un rassemblement solidaire du peuple palestinien qui appelle au cessez-le-feu et à l'arrêt des crimes contre l'humanité. Donc c'est vendredi à 18h au Terreau. Voilà, après il y a aussi il y a aussi une manif contre l'extrême droite, mais je pense que l'émission d'après, je ne sais pas si elle va venir, on parlera mieux que nous. Mais il y a une manif contre l'extrême droite, parce qu'il y a un week-end entier contre l'extrême droite.
Parce que nous, on n'est pas trop contre l'extrême droite.
Arrête tes conneries. Il y a des gens qui écoutent, peut-être. Donc, donc ce samedi, il y a à 15h, à Bellecour, il y a une manif contre l'extrême droite. Et après, il y a aussi les forums sociaux antifascistes au CCVA de Villeurbanne de 10h à 19h le lendemain. Voilà.
Ah bah voilà, bah moi aussi j'ai un petit agenda, mais c'était ça dont j'allais parler.
Ah ok.
Bah tu vois, c'est bien. Et bah écoute, on se retrouve la semaine.
Attends, c'était pareil ça, parce que toi t'as un peu le détail, puisqu'il y a des concerts aussi dans le cadre de ce festival antifasciste, non?
Non, est-ce que tu
confonds? Il y a Médine.
Non, alors voilà, tu mélanges
un autre truc à un autre moment.
Les trucs antifascistes. Dès que voilà, toi tu confonds les antifascistes. Bravo. Vraiment, bravo.
C'est parce que je.
C'est parce que. Non, là, après, il y a les 10 ans du Lyon Antifa Fest. Et ça, ce sera. C'est fin novembre, je crois. Donc, il y a le gros concert, hein, où ce sera jeudi 30 novembre. Et effectivement, il y a The Rockstar Médine qui sera là.
Voilà. Rapstar plutôt.
Rapstar. Ah, il faut pas faire. Ouais,
ce
okay.
sera donc le 30 novembre. Hein, je lui antifasse.
Ah ouais, bon alors, allez-y le 30 novembre, ce samedi. Non, le samedi d'après. Non, pas un samedi en fait.
Ce sera. Oui, je suis bon. Ouais, 30 voilà. novembre, je pense que ça commence un vendredi, et puis j'en sais rien.
Le 30 novembre, bah, ça commence à peu près le à minuit, et puis ça refinit à minuit après.
Bon, alors d'écouter cette remarque. Merci beaucoup.
Non, c'est un mercredi le 30.
Ah merde, mais il y en a qui bossent le lendemain. Non, pas moi. Eh ben, en tout cas, c'est pas parce qu'il nous reste 10 minutes qu'on va faire 10 minutes de commentaires pénibles à écouter comme ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et peut-être que vous aurez Idée Noire, l'émission. Qui vous parlera peut-être plus en détail de la manif de ce week-end. Ah non, eh ben on ne sait pas, voilà, on ne les voit pas, on ne sait pas. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés.
Radio Canu,
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. C'est le Canu Info, c'est le Canu Info.